to campus. Thank you for coming out on this freezing cold day. I hope it wasn't as painful for you getting over
a little chilly out there. C'est un grand plaisir de vous voir ici. J'aimerais introduire notre registraire, our registrar, Kathleen Massey, to say a few words of welcome.
Bienvenue tout le monde. I am so pleased that you're all here today, and I hope this is on and you can hear. We are thrilled to have you on campus on this very cold day at McGill. I hope your travel to campus was as pleasant as it possibly could have been, as you dreamt perhaps a warmer weather somewhere. We have many guests with us today, many colleagues with us today who are going to provide you with lots of information. I wanted to start by telling you a little bit about this wonderful building that we're in. A little bit of information about Redpath Museum. It was built as a museum initially, and it is the oldest building in Canada built specifically for that purpose as a museum. In fact, it was built in 1882. And I wanted to say that initially it was built to preserve the collections of a noted Canadian naturalist. His name was Sir William Dawson. And you might also be aware, if you've been to McGill before, that there is also a Dawson Hall on campus, and that's the home of the Faculty of Arts and Faculty of Science advising offices. So I share that with you because you are also advisors. You know, very important work happens in Dawson Hall. So with that, I'd also like to introduce you to my colleagues from Enrollment Services. Lindsay Wilmot will then introduce our other colleagues. Yeah, I wasn't looking for you. I knew you were there. Lindsay will then introduce you to the rest of our colleagues who are here today, sharing their time to answer your questions. So beginning with the person who organized the event today, who could not be here, Sophie Marcoux. Sophie is not well today. She would have loved to have been here to see all of you. She knows many, if not all of you, but could not join us. She is a recruitment officer. And then, of course, we have Lindsay Wilmot, who was just hiding behind here a moment ago, senior recruitment officer, and also, by the way, your master of ceremonies today. Then we have Patty Tarika. Is Patty here?
No.
I didn't see her. Okay, well, let me just let you know that Patty and Chrissy Karopoulos. Do I have Chrissy here today? Mm-hmm. Chrissy is probably behind the scenes, busy working away to prepare for the next stage of this event. And they are both very important people in our office who do lots of work every day to provide support to you as well as to our applicants. Then I want to also point out that we have with us today Jen Peterman. I'm sort of... There she is, up there. Jen is also a senior recruitment officer. And then we have Mehek. Mehek Mehta is right over here. And Mehek is, and Leanna Dumond, Hall Dumond. There you go, right up at the top. And we also have Melanie Element. Okay, right over in that corner. Remember these faces because these are people you can turn to if you have questions after the talks. And they'll certainly be happy to help you navigate the day. They are all recruitment officers, back on in the office after many months on the road. Karen Shortino, I'm hoping, is here today, right behind me. There you go. Karen is an admission officer, senior admission officer, in fact. So if you have detailed questions about admission requirements, Karen is the person to see. Adriana Rachabinski. Right over here. And Adriana is supervisor of the Welcome Center, and our campus tour program is run out of that office. You have lots of support here today. You also have, I don't believe we have Deborah Blanche, but we have Deborah Dimitrik here, right over in this corner. And Deborah is a liaison officer, and she is also often responsible for events at McGill and many other activities. So with that, I think I would just like to conclude by wishing you a really wonderful day, morning here at McGill. If there is anything you need, don't hesitate to ask. We're happy to help you, provide whatever information you need. And with that, I will hand it over to Lindsay Wilmot.
Thanks, Kathleen. Excellent. Wonderful. Perfect. I'm going to invite all the admissions panelists to grab a seat up here. So I'm going to be sitting up here, and as Kathleen mentioned, emceeing a little bit and helping out Nancy. We've got another seat right over here. So year after year, we always kind of throw a lot of information at you at these sessions. We give generally a very lengthy PowerPoint. And some of the feedback that we've received over the years has been about giving you sufficient time to ask your questions, specifically as they relate to programs and admissions. Donc cette année, parce qu'on a eu des très grandes demandes pour avoir le plus grand montant de temps possible pour pouvoir poser des questions, on sait que vous avez des questions souvent très détaillées à propos du processus d'admission. Donc ce matin, on va débuter un admission panel. Nous avons ici des représentants de tous les départements, toutes les facultés à l'Université de McGill qui sont responsables pour leur propre admission, donc pour faire les évaluations des demandes d'admission qu'ils reçoivent. So we have here today representatives from the Faculty of Law, Ali, Martin Mayer sitting right next to me today, Medicine. We have Charmaine as well as, is Vesna here? Vesna. The Schulich School of Music, Patrick. The Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, we have Nancy here. While admissions for the Agricultural and Environmental Sciences are done through enrollment services, they do have their own campus, a very unique array of programs, so we wanted to make sure they were represented here today. We have Karen Shortino, Senior Admissions Officer, and myself here representing enrollment services, and then we have our School of Dentistry as well. So Marie-Claude Chagnon, who's here today. So I'm going to ask each of them to say a few words, share some key messages, any updates with regard to their admission process, and then we're going to open it right up for the Q&A. Ali, maybe we can start with you right
here.
I'm going to give you.
Thank you for inviting me to this panel today. It's my pleasure to be here. J'ai pensé, en pensant aux deux minutes, trois minutes pendant lesquelles j'allais vous parler, de vous expliquer pourquoi vous pourriez conseiller le droit à vos étudiants et éventuellement pourquoi McGill. Alors, j'essaie vraiment de le faire de la perspective d'un conseiller en orientation. Pourquoi le droit? C'est un programme qui est accessible de tous les chemins. Il n'y a pas de cours vraiment prérequis comme il peut y en avoir dans des disciplines scientifiques. Donc, n'importe qui, dans la mesure où il va avoir un DEC, peut appliquer au programme. Donc, c'est accessible de tous les chemins. C'est un programme qui mène à des professions libérales, avocat, notaire, éventuellement juge, ça vous le savez. Mais c'est aussi une formation rigoureuse, généraliste, et qui est d'application ou d'utilité immédiate. Alors, qu'on devienne un avocat ou non, c'est une formation intéressante qui développe les aptitudes de lecture critique, d'analyse, de rédaction, de présentation et d'argumentation. Quelqu'un d'extraverti qui vient dans votre bureau peut peut-être être intéressé par le droit, certainement, mais quelqu'un de timide, moi j'ai été timide toute ma vie, et puis le fait d'aller en droit m'a vraiment permis de sortir de ma coquille. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup développer la confiance. Alors, n'ayez pas d'a priori là, quant au tempérament des étudiants qui viennent vous voir pour aller en droit. C'est un domaine, le droit, qui se doit de suivre de très près les développements de notre société, qu'ils soient scientifiques, sociologiques, économiques, environnementaux, etc. Donc, pour un étudiant qui est très curieux, qui a une curiosité très large, très ouverte, c'est un domaine qui peut être intéressant. Et si c'est quelqu'un qui cherche à développer des outils qui lui permettent d'influencer de façon concrète le monde dans lequel il vit, les études de droit peuvent être un projet très satisfaisant. Why McGill? Specifically for law. So I'll touch on a few aspects. First the program, then I'll talk about the student body, and then a few other aspects that define who we are. So why McGill Law? We have a unique curriculum. as you probably know, and I don't want to go into too much detail, you will, the students will come out with 2 degrees, one in civil law, one in common law. They will learn 2 and more legal systems. It's beyond comparative. It's a really unique approach to looking at the law, trying to get to the purest essence of what law is, and then applying it in a very creative way. So here again, you see, it links back to the curiosity I was talking to you. So if you are a curious person and you have broader geographic ambitions, McGill might be the place for you. About the student body, it's a diverse student. We aim for it to be as diverse as possible. It feeds into our mission of looking at different systems of law, so we need to have people from different perspectives to fuel that conversation at the faculty. Our students are incredibly involved. They're very generous with themselves and their time. So you get a very rich student life. The average age is 24, and that hasn't changed. Less than 20% of our students come directly from CEGEP. About a quarter of them have French as their first language. Other aspects that define who we are, the global reach of our alumni. We have alumni all over the world, and I think that sets us apart in Quebec. Small faculty. Yes, okay. For a law faculty, we're relatively small. It's a great asset. We have small classes. There's a very high retention rate. The flip side of that, and I think it's a good thing, we have very high expectations for our students. We will not let students fade away. It's not they wouldn't come here and be able to just blend into the background. We will stay on them until they graduate. So that's something to keep in mind. Sometimes students might come to you with different expectations of their university experience. Here it's small but intimate in that sense. Just reiterating that from the numbers you see, the norm is to have an undergrad, well, the vast majority of our students do have an undergraduate degree. And here again, we see kind of the two legal traditions. Here in Quebec, it's accessible out of CEGEP, and then we have to compete with the North American system where an undergraduate degree is required. And it is in a bilingual environment, which is something else that sets us apart. In terms of the admission process, I think our admission process reflects who we are in the sense that it's competitive, it's holistic, so it will look for these different disciplines coming into the program. It will look for that diversity. We do look for maturity. We do look for curiosity and openness. And in terms of the process itself, this year there are 2 new changes. The CV is required to fit on 2 pages. And we have always asked for 2 reference letters, but as of this year, we will not take any more reference letter than 2. So it might change things a little bit.
We have a question here.
1 second.
Oh, okay.
Maybe still have a microphone. All right, Kim. No, this one.
Thank you.
There we go.
I'm Kim Bartlett, and I'm going to... Okay, thank you. I'm going to make a suggestion here because I'm looking at your time and I'm looking at the number of speakers and I'm thinking about the request to have this interactive. So I think maybe I'm going to be a little bit rude and suggest that you go right to questions. And I'm not sure how you'll organize that, but with all due respect, folks, you'll never get through it if you start with your introductions.
Thank you.
So, okay? Me later, Ali.
I do think that we have to maybe at least make sure everyone has the chance to really introduce themselves so that you know who they are, and really give just some brief maybe admissions messages. So we'll tighten things up. We'll tighten things up. So if we can take it here, Marie-Claude.
Yeah.
Oui. Les critères d'admission, absolument en français. Oui, would you mind, Ali, just repeating with
oui,
me?
Oui, le CV doit tenir sur 2 pages. Avant, on mettait pas de limite sur le... Et les lettres de référence, il en faut 2, mais on n'en prendra pas plus que 2. Donc, il faut...
Il n'y avait pas de limite auparavant. On n'avait pas de limite.
Ça pouvait monter à 3, 4, 5
ouais.
Des fois, là. C'est, il faut que ça soit 2, oui. Yes.
Yes.
We require to. They have always been Yes.
Yeah. Oui. Je crois que ce qu'on va faire, c'est on va poser les questions à la fin. À ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment savoir qui est qui. Mais comme ça, je vais demander à tout le monde de vraiment garder le temps très serré, pas plus que 2 minutes, et de garder vos questions pour la fin. Allez-y, la dernière.
Madame en droit.
You.
Allez. Madame. You. Un étudiant qui coule un cours en première année, est-ce qu'il peut poursuivre en deuxième année?
Oui. Ben, il y a des différents processus il faut qu'il prenne un examen pendant l'été.
Ah.
Donc, il y a comme un processus pour essayer d'aider à les rattraper, à se rattraper. Mais il y a une période, il va être mis en statut de probation. Mais d'après ce que je comprends, c'est pas... Mais je pense qu'ils peuvent continuer, mais ils sont suivis de très près, puis il faut qu'ils réussissent ce cours-là à la fin de l'été.
Oui. Parfait. All right, so we're going to get things going here very tight. From this side, actually, we'll move over towards the left-hand side.
Sure. Very quickly, my name is Marie-Claude Loignon. I'm from the Faculty of Dentistry. Nothing new this year for the preparatory program, just that the deadline is March 1st, and encourage your student to submit their online application a few days, if not a few weeks before, because they need to upload their documents directly on their Minerva profile. Donc, soumet ta demande en ligne avant le 1er mars autant que possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, en fait, l'admission est similaire aux autres années, donc il y a des documents à soumettre, un énoncé personnel, des lettres de référence. Oui.
Il y a eu beaucoup de modifications.
Ben, dans notre cas, il n'y a pas de modification, comme je vous dis, donc c'est un énoncé personnel de 3 pages. C'est un document PDF sur le site web qu'ils doivent remplir dans la langue de leur choix. 2 lettres de référence, un de professeur de sciences et l'autre d'un répondant non académique, un CV, et c'est tout.
Et le tout qui est uploaded on Minerva?
Oui, c'est ça. La plupart des documents peuvent être téléchargés directement sur leur profil Minerva, à l'exception des lettres de référence. Reference letters need to be sent directly by the referees to our email. All the details are on the website. You just really need to... strongly encourage them to really go and read. And call me if there's any questions. It's not a problem at all. Oui, oui, bien sûr, c'est sûr. Mais dans le cas de questions plus précises, ils peuvent m'appeler.
Oui. Et c'est important à noter aussi pour chaque faculté, chaque programme qui est responsable pour leur propre admission, la meilleure place où envoyer l'étudiant est directement sur le site web de cette faculté. Donc, si je m'intéresse à faire une demande d'admission pour la faculté, pour un programme qui est géré à travers Enrollment Services, donc Karen Shortino qui était ici aujourd'hui pour les représenter, la demande se fait, les informations se retrouvent sur le site web de Enrollment Services. Mais pour tous les autres programmes que nous avons ici aujourd'hui, médecine, médecine dentaire, droit, musique, vraiment de dire diriger l'étudiant sur le site web pour ce département, pour cette faculté-là particulièrement. Karen.
J'ai des petites rappels comme habitude. Si vous avez un étudiant qui fait le cégep à distance, c'est important. Nous avons le note finale avant septembre. Ça, c'est pas une raison pour... to extend the deadline further, okay? Nous avons utilisé le code R global. S'il y a un étudiant qui pense son code R est diminué par un programme ou un autre, cachez la boîte pour les circonstances atténuantes sur la demande et on attend pour la lettre, okay, pour l'explication. S'il y a un étudiant qui prend le cours de l'été, envoyez un petit courriel ou écrivez une note sur la demande, OK, parce que c'est important pour nous, parce qu'il y a Des fois, c'est pas sur le relevé de notes si une personne est inscrite dans un cours de l'été. We don't guess.
Particulièrement si c'est un cours préalable. Alors, si l'étudiant prend un cours préalable nécessaire pour l'admission dans un programme en particulier et choisit de le prendre pendant l'été, quand nous, on reçoit le relevé de notes, ce cours peut paraître comme manquant et serait une raison de refuser admission à cause d'un préalable manquant. So if a student particularly is taking summer courses, especially if it's a prerequisite course, but really any course they're taking over the summer, those don't always show up on the transcripts that we're receiving from the ministry. So to make sure that an email is sent in to us so we're not refusing that student for missing prerequisite. So essentially we have a really good understanding of all the courses that they're intending on taking before graduation. Sorry, Karen.
Mais on sait que tous les cours sont nécessaires pour le DEC. On cherche le DEC. Okay? Pour le préalable, une minute.
Karen Shortino.
Okay. Bureau d'admission, section là. Okay. Pas pour les programmes médecin, droit, dentaire, musique, mais l'autre.
Tout le reste. Pas beaucoup.
pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Il y a des fois. On attend pour une décision quand nous avons les notes pour l'hiver. OK? C'est rare, mais si un étudiant, si on n'avait pas les préalables, peut-être plus d'une moitié, on attend pour les notes de l'hiver. OK? Mais normalement, non. Et une autre chose, le DEC sans mention. En principe, on n'avait pas. Je parle de notre bureau ici. On n'avait pas un problème, en principe, parce que on avait. Ça, c'est relativement. Fairly new. Relatively new. OK? On cherche les étudiants avec un DEC et des préalables. OK? S'il y a un étudiant avec un DEC sans mention et un cours de ça, un cours de ça, there's no feeling of a program. Ça, c'est peut-être un problème. Pour l'autre, non. OK?
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est clair? Donc,
oui.
Oui. Et ça, c'est pas un problème pour nous. En fait, ce qu'on recherche quand l'étudiant dépose une demande, est-ce qu'ils ont un DEC? DEC sans mention, c'est un DEC.
C'est parce que
pas
pour
de problème.
Nous, c'est rare. OK? Quand j'ai vu le DEC sans mention, et normalement, c'est presque parfait science, il manque une course, ça c'est pas de problème, ok? C'est juste à dire, s'il y a une personne avec un DEC très créatif, peut-être, ok, peut-être, mais on cherche les préalables et un DEC.
That's a good question. Would that be the same for all of the other, for medicine, law, music, dentistry? DEC sans mention is not a problem?
I'll address it.
Okay. Excellent. So actually, we can go ahead. He's got a mic.
Good morning. Bonjour. My name is Patrick O'Neill. I'm the admissions officer at the Schulich School of Music. I'd like to point out two important changes this year. Number one, our application deadline was moved from January 15 to February 1. Ça veut dire que la date limite pour une demande d'admission, c'est le 1er février, okay, au lieu de le 15 janvier. So we are still accepting applications. Even if it's after February 1, we do encourage students to contact me, and we will let them apply. C'est parce que pour des étudiants de cégep, en général, la date limite, c'est le 1er mars. Tout le monde pense 1er mars, 1er mars. So for music, because we're earlier, because of auditions, we do have an earlier deadline, but we do encourage students, if you have a student who says, oh, no, I missed the deadline. Please, don't worry. Tell them, contact Mr. O'Neill at McGill, and I'll help them out. The other big change is that we have a new stream within one of our general music degree programs. C'est le programme, c'est un programme général, parce que dans le programme de musique, on a interprétation, performance. We have a performance stream, but we also have a non-performance stream. And I think that's important to point out that not everyone who studies music is going to be a world-class musician. On a beaucoup des étudiants qui veulent suivre des cours de musique, mais aussi ils veulent étudier d'autres disciplines. So we have a program now in the faculty program that a student who plays a classical instrument can go that way, but we also have students who play a jazz instrument can also be in the faculty program with a jazz instrument. So I really want to reiterate that students who come into music do not necessarily have to be very top performers. We have many bright students who come in and study music and other disciplines. And after they graduate, they go on to law school, they go on to medical school, they go on to do an MBA. So it's very important. Not our many, our students are going into many different directions. And I think if you're, you know, you're speaking to young students who have a passion for music, but also a passion for other disciplines, we are a great place to come and study. So I'd like to leave that with you. Pour le DEC, sans mention, pour nous, ça prend un DEC. Tout le monde pense que les étudiants sont obligés de faire un DEC en musique. No, we just look for a DEC. The majority of students do have music DECs, but if they do not have a music DEC, it, all it will affect is some of their advanced standing. So, pour nous, ça prend un DEC. Parce que le plus important, c'est l'audition. Que c'est important, l'audition et aussi les notes. Puis une autre chose à noter, nous sommes la seule faculté à McGill qui n'utilise pas la cote R. We do not use the cote R. We just look at the average, we look at the audition, we look at other aspects of the students, academic record, etc.
So. Would you say, Patrick, it's 50-50? Combien d'emphase est mis sur les notes versus l'audition?
Depends on the program. If they apply to performance, c'est plus l'audition. Si je mets une note, peut-être 80%. If it's a non-performance stream, composition, general music, 50-50. So we have students who apply, and we sometimes will even suggest that they come into one program over another.
Okay, I'll leave this on your side.
So, but I do encourage students to apply.
Mm-hmm. Oui. On a le micro.
Que je parle assez
mais en fait, c'est, j'ai oublié de noter, on a des gens qui sont avec nous sur le web.
Ah, bon.
Donc, le micro, oui, on va vous le passer quand il y a des questions pour qu'on n'ait pas besoin de le répéter pour que les gens qui connectent via Internet peuvent t'entendre.
D'accord. Bonjour. Bonjour. lorsque vous recevez les candidats pour l'audition, c'est pas seulement une audition de jouer l'instrument, n'est-ce pas? Il y a aussi, je crois, et je vais me faire confirmer, confirmer lecture de notes, écouter puis écrire. Il y a aussi d'autres choses que seulement l'instrument, n'est-ce pas?
Ben pour nous, pour l'audition que c'est très important, mais aussi c'est le analyse de les cours qui ont suivi au cégep.
Oui, mais c'est pas ça que je demande. À part, dans l'audition,
oui.
Le candidat joue un instrument.
Oui, c'est tout.
C'est tout?
C'est tout,
ah,
oui.
Bon.
On n'a pas un autre examen durant l'audition.
Merci.
D'autres universités, oui, ils ont peut-être un examen pour la théorie, par exemple. Nous sommes, on n'a pas un examen à ce moment.
Nancy, do you want to just say a few words?
Good morning. Bonjour. My name is Nancy Lewis. I'm a recruitment officer, so I'm here today just to tell you a little bit about McDonald campus. So our files are actually read by the main enrollment services, so by Karen and other admissions officers. But we are the Faculty of Agricultural and Environmental Sciences and School of Dietetics and Human Nutrition. So we're located in Saint-Anne de Bellevue, in the western tip of the Montreal Island. C'est important de mentionner que même si on est une faculté, nous avons cinq diplômes, tout en sciences et en génie. Des fois, les gens ne savent pas qu'on a un autre programme en génie, génie des bioressources. Alors ça se prend place au campus McDonald. Nous avons des sciences, comme j'ai dit, sciences de l'agriculture et l'environnement, les sciences de l'alimentation. Diététique et nutrition, et aussi le cumul des programmes en alimentation et en nutrition. Alors, pour ces étudiants là, les études prennent place au campus McDonald. Class sizes are a little bit smaller there. Our student body is about 2,000 students all together. So you do have smaller class sizes, a bit more of a community feel, a lot of hands-on learning and a unique location on the waterfront and working farm on campus for those who are interested in the animals and the agriculture and working arboretum as well. So lots of unique things to take part in at the McDonald campus.
On va juste vous donner le micro. Je vais le garder.
J'aimerais savoir pour les étudiants qui étudient déjà comme en gestion agricole et qui veulent passer dans un des diplômes à McDonald, je veux dire au campus McDonald,
oui.
Est-ce que vous donnez les préalables? Est-ce qu'ils peuvent faire les préalables manquants à McGill? Parce qu'il doit manquer des cours de sciences.
Oui, j'ai rien dit pour les préalables. Pour nous, on cherche toujours un DEC en sciences parce qu'il y a, ce sont tous des programmes en sciences ou en génie. Alors, il y a des préalables en sciences et en maths. Alors, normalement, un DEC en sciences. Alors, si les gens n'ont pas les sciences, il faut les prendre avant. Il faut avoir un minimum. Chaque diplôme a des préalables un petit peu différents. Est-ce que c'est une question de tech-tech ou non?
Je sais que vous acceptez des gens en gestion agricole qui ont un deck technique.
Oui.
Et il leur manque des préalables de
sciences. Excuse-moi. OK. Oui, c'est correct. Oui.
Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous les leur donnez ou ils doivent aller ailleurs? Où est-ce qu'ils les font? Comment ça fonctionne?
Les étudiants peuvent compléter les préalables en sciences à McGill une fois admis à un programme en sciences de l'agriculture et de l'environnement. À McGill, c'est pas ça. À McDonald's.
OK. Microphone.
Pour la plupart de programmes, sauf médecin dentaire, loi et droit, OK, il y a un minimum. On cherche tous les préalables, mais on avait un minimum. OK, le minimum est peut-être 4 ou 5. Des fois, on accepte un étudiant avec 4 ou 5 préalables. Pas le 6 ou le 7, OK? Il y a des possibilités de faire les autres ici, mais cet étudiant est fort, un peu plus fort que le minimum, OK? Et c'est difficile pour les programmes très contingentés.
On a dans les documents qui sont disponibles pour vous à l'entrée, on a... Oh, I've got one. Moi, j'en ai pas de besoin. On a en fait un document qui identifie pour chacun des programmes quels sont les préalables de base et quels sont les préalables, disons, idéales. Donc oui, effectivement, comme Karen nous l'indique, un étudiant qui n'a pas nécessairement toute la gamme de préalables requis ne serait pas automatiquement refusé admission. Par contre, pour les programmes très contingentés, très compétitifs, ça peut certainement avoir un impact. Ils vont présenter une demande d'admission qui est un peu moins compétitive qu'un étudiant qui présente tous les préalables nécessaires. Alors, pour les étudiants qui sont dans des programmes techniques, c'est important à savoir. Par contre, pour les étudiants qui sont dans les DEC intégrés, eux, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter qu'ils présentent une demande d'admission moins compétitive. C'est accepté. Donc, le DEC Sciences, Lettres et Arts, oui, effectivement, dans certains cas, l'étudiant, on lui manque un cours de chimie ou un cours de physique, mais l'étudiant ne sera pas pénalisé dans la demande d'admission. C'est important à noter. Charmaine. Yeah, we don't want to miss you.
Hi. My name is Charmaine Lin. I am the director of the Office of Admissions, Equity and Diversity for the Faculty of Medicine. Bienvenue et bonjour à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de changements pour notre processus cette année. Nous avons encore la date limite du 1er mars. Il y a une autre date limite, le 4 mars, pour le dépôt des documents supplémentaires. Il y a un petit changement. L'année dernière, les étudiants ont été exigés de soumettre 2 documents supplémentaires. Cette année, il y a uniquement, il y a juste un document qui est vraiment une collation de vraiment de 2 documents. C'est le CV. Le document, ça s'appelle CV et exposé personnel. Mais voilà. Alors, ça comprend 2 pages de CV. Une page qui consiste d'une liste de vérificateurs ou de références. C'est juste les noms et les coordonnées pour les personnes qui, nous, dans le bureau des admissions, on peut joindre pour vérifier tout ce qui est dans le CV. Et finalement, la dernière page, c'est l'exposé personnel, c'est structuré. Il y a trois questions dont les candidats sont exigés à répondre. Ça peut être rédigé en français ou en anglais. Il faut que ça soit téléchargé par le biais du système Minerva avant le 4 mars. Il n'y a pas de lettre de référence. On n'acceptera pas les lettres de référence. Nous avons préparé aussi un document d'une page recto verso anglais-français avec un aperçu de la catégorie, les conditions académiques, les programmes, les cours de prérequis exigés, les dates importantes, ainsi que quelques statistiques pour les trois dernières cycles d'admission. Nous pouvons les laisser pour vous ou distribuer maintenant comme vous voulez. Nous vous encourageons aussi de visiter notre site web et d'encourager vos étudiants de voir le site web. Nous avons fait un grand travail l'été dernier pour réviser le site web, pour le simplifier. Il y a des étapes très claires maintenant pour toutes les étapes de l'application du processus. Les entrevues auront lieu en fin avril, le 23 et le 25. C'est un mercredi et un vendredi. C'est pas deux jours en ligne comme on a fait auparavant. Et on prévoit, c'est à confirmer, mais on prévoit que la date des offres pour toutes les facultés de médecine au Québec, pour les programmes de médecine, ça va être le 21 mai. C'est un peu plus tard que normalement, mais voilà, c'est une entente entre les quatre facultés. Pardon? je sais pas pourquoi on s'est entendu sur le 21, mais ça va être le 21. Oui, nous comprenons, mais on est un peu prise. Ça va être confirmé d'ici la fin janvier. On a une grande réunion entre les quatre facultés. À quel moment je vais soulever aussi la question du DEC sans mention? Nous avons à McGill, nous attendons des DEC dans les programmes prescrit, programme de sciences combinées, sciences et bac international, sciences, arts et lettres. Nous n'avons jamais, jusqu'à date, reçu une demande de quelqu'un avec un DEC sans mention. Ça peut arriver. Si ça arrive, moi, pour ce moment, je veux dire qu'on va l'étudier cas par cas pour voir s'il y a le contenu nécessaire pour que cette personne puisse réussir dans un programme assez exigeant. Ça va être une étude de chaque dossier, mais je vais soulever la question avec mes collègues dans les quatre facultés pour voir si on peut prendre une position collective là-dessus. Oui?
Dans votre situation, vous devez faire, l'étudiant doit faire le DEC dans les deux ans prévus. Oui. Fait qu'un DEC sans mention, c'est jamais dans les deux ans prévus, là.
OK, parce que
c'est qu'en partant, il devrait être éliminé, là.
Cela étant dit, nous avons aussi des circonstances atténuantes. Ça se peut que dans un cas particulier de la vie de quelqu'un, il n'y avait aucun choix. On ne sait, moi, je dirais pas jamais. Ouais. Et j'aimerais voir avec mes collègues quelle est la position avant que je prenne une décision devant tout le monde ici. Et puis, c'est pas écrit en béton, là. On va voir. I personally like to always be sure that we are not excluding anybody without making sure that I want to make sure we have a solid ground to stand on before we make a decision about what is or isn't allowed. And I would like to see what our colleagues are doing. And if there's a possibility that might make the program accessible to somebody that it needs to be accessible to, then we would be inclined to look into it at least. J'avais juste une petite message pour vous comme conseiller. C'est un programme professionnel. Nous attendons... I'm going to say it in English because I feel more comfortable. It's a very competitive program. It's very high stakes. We know that the candidates who are coming to us have thought about it and have aligned themselves up for this for many years. Most of them, they're very young, but they're highly motivated and directed people who are coming to us for the majority. We want them to see themselves as future professionals and to conduct themselves in the process as professional people with integrity, with honesty, with respect to their other peers who are applying in the process. Every year at the end of the process, we get feedback from students, from parents, from upset people whose children didn't get in, that so-and-so said that in their school, this person got in with this R score, and the students are talking to each other. And we hear about it, and we have to respond to many different stakeholders. And for us, it's important that the students, the future applicants, the future physicians, dentists, lawyers, musicians, people who are coming to us, understand that it's important for them also to protect the integrity of the process, to not talk about everything that's going on in their file with everybody at all times. I don't know if everybody's cringing in the room right now. But I would hope that that's a message that you as counselors can impart on them as well, to remind them that we're looking at their maturity. We're expecting them to conduct themselves like adults. They are adults, and I would hope that my future physician is going to be able to come and talk to me directly about an issue that they have, as opposed to going on a blog or whatever the case may be. We're very open to hearing from people. We have processes by which people can let us know or feedback to us what is happening in their own application. So if they take ownership of that, they take responsibility for their actions, they are responsive and they tell us what the real truth is, we're looking for that kind of competencies, those kinds of competencies and those kinds of character traits in the people who are, gunning for a very, very limited number of spots for a very privileged kind of education. So that's my professionalism message.
Si vous avez des questions, if anyone has questions, this is the time to do it. On va commencer ici et par la suite.
J'avais deux petites questions concernant, tantôt, Madame Karen, vous avez parlé pour la cote programme versus la cote globale, que l'étudiant doit transmettre une lettre quand il coche circonstances atténuantes. Oui. Est-ce que la lettre vient de lui? Ou de son
non,
API.
C'est possible de télécharger.
No, oui, does he write non, it or does she write it?
Ça dépend de la circonstance.
Okay, non, si mais l'histoire de la cote programme, oui. C'est que le collège, pas le collège, mais le ministère émet une cote dans le programme dans lequel il termine. Puis là, vous dites qu'il faut qu'il transmette une lettre pour expliquer ça. Oui. Est-ce que c'est lui qui a juste à expliquer ça ou c'est son aide pédagogique qui doit l'expliquer sur une lettre?
So to flag for us that he's got a program or a score,
non,
and it's not the same as the global. Who should send the letter?
Non, pas. Faut qu'il coche circonstances atténuantes, right. Sinon il considère pas la cote programme.
C'est-à-dire, on utilisait le cote R global.
Oui.
OK? C'est ça. Mais il y a des cas individuel, peut-être un étudiant dans deux programmes, peut-être l'autre programme.
Oui, moi j'ai un bon exemple. Sciences de la nature, oui. Première session, va terminer son diplôme en sciences humaines.
Oui.
OK? Là, la cote de sciences ne compte plus. Donc, oui. Sa cote à la fin, quand il termine sciences humaines, est beaucoup plus élevée que si on considère la cote globale où, mettons, il a moins réussi avec la science. Okay. Donc, s'il y a une grande différence.
Si l'étudiant ne cache pas le bois, OK, c'est cote R global, c'est tout.
C'est fait par ordi, la décision.
Yeah. Okay. If he does, then
si,
who will
si elle cache le bois,
OK, c'est la responsabilité de l'étudiant
d'écrire nous une lettre, télécharger
à son dossier. On attend.
Mm-hmm.
On lire, peut-être
oui, peut-être non.
Mais on avait une chance.
Ouais. C'est important pour nous aussi de pouvoir évaluer pourquoi l'étudiant veut qu'on ignore En fait, c'est ça qu'on nous demande, c'est de complètement mettre de côté la quote R du programme original. Changement de programme, oui,
mais quand
et pourquoi, et de nous démontrer qu'il y a une raison que maintenant, on devrait pas se fier à ces... Parce que les étudiants vont changer de programme pour plusieurs raisons.
C'est parce que les universités francophones, c'est systématiquement comme ça. Ils prennent la cote programme dans lequel l'étudiant va diplômer.
Ouais, c'est pas systématique.
Et cette raison-là, pourquoi on a développé ce système-là, c'était pour aider un étudiant qui change d'orientation et ne pas le pénaliser parce qu'il a fait une erreur au début. C'est juste ça l'idée.
On peut être 5 ou 4 ans passés, on fait des recherches, OK? On détermine, il n'y a pas de différence pour nos étudiants qui ont utilisé le quota global ou une quota par le programme. C'est parce que notre minimum est un peu haut.
Mm-hmm.
OK? La plupart de nos étudiants n'est pas affected par ça. OK? Je pense qu'il y a seulement une personne qui t'est refusée. Et je pense qu'il y a 2 personnes qui étaient acceptées, OK? Of everybody. Ce n'est pas un problème pour nous, pour notre étudiant.
OK.
Would you say it's automatic, Karen, that a student who has changed programs, that we will completely ignore the R-score from the first program?
No.
C'est pas si the box is checked.
No. Parce qu'il y a des étudiants qui font 3 semesters, OK? 3 sessions dans sciences et 1 ou 2 sessions en sciences humaines.
Mais une règle, il faut qu'il y ait 16 cours et plus dans
ça, c'est
le nouveau
trop,
programme.
OK? Ça, c'est trop. Si c'est un semestre, c'est seulement des cours de sciences, peut-être oui. Il y a une grande chance, peut-être oui. C'est cas par cas.
Mm-hmm.
OK?
Non, mais je voulais juste savoir la lettre, c'est de qui. Parfait, oui, merci.
Oui.
L'autre question, c'était nutrition, sciences des aliments, diététique, le food science, là, versus diététique, versus nutrition. J'aimerais réentendre vous, en quelques mots rapidement, la distinction entre chacun.
La distinction?
Oui.
Il y a des fois la confusion pour les étudiants francophones, parce que nutrition en français, c'est l'équivalent de diététique en anglais. Okay. Alors, les étudiants qui veulent travailler dans une profession, comme dans comment je dis ça? Dans une clinique ou avoir le titre professionnel de diététiste ou nutritionniste, ils doivent choisir la majeure en diététique. Okay. La majeure en nutrition, c'est plutôt pour la recherche, pour l'éducation, les études générales, les étudiants qui veulent faire des études supérieures. Mais pour avoir le titre professionnel et pour travailler dans un milieu clinique, il faut choisir diététique. Okay. Nous avons aussi les sciences des aliments. C'est plutôt un programme vraiment fort en chimie. Alors, beaucoup d'étudiants font des travaux après dans les organisations, j'ai la misère de parler, gouvernementaux, de la recherche pour les aliments qui sont bons pour nous. La cumule des programmes, les deux, alors nutrition et les aliments, c'est pour étudier et trouver des aliments qui sont bons pour nous et comment ça fonctionne, les aliments...
La malbouffe?
Pardon?
La malbouffe. Dans le fond, la santé et la malbouffe un peu.
Oui. Mais le message pour vos étudiants, c'est vraiment, s'ils veulent travailler dans un milieu professionnel, c'est vraiment diététique. Il y a, parce que c'est un programme professionnel, plus contingenté, la quota est plus haut, plus élevée que de nutrition. C'est clair ou un petit peu plus clair?
Le programme de génie aussi au campus McDonald's, c'est un programme de génie. En fait, c'est une des grandes distinctions. C'est génie bio-resource engineering. Donc, les étudiants qui s'intéressent à la génie dans le domaine de l'environnement, la gestion de ressources naturelles, comment on peut mieux aller chercher de l'énergie, comment on peut même faire de la génie d'écosystème. de les rapporter, de les ramener en santé, des écosystèmes qui ont été complètement détruits par l'huile, ou d'aller chercher des ressources naturelles, comment on peut les ramener, les remettre en santé.
Je sais que je n'ai pas le microphone, mais tu vas écouter, s'il te plaît.
Oui.
Ils font des stages aussi dans diététique. Merci.
En diététique, oui, ils font aussi des stages. Alors, c'est vraiment un côté pratique qu'il y a avec ce programme.
Merci.
Bonjour, c'est pour Karine. J'aimerais vous faire une proposition sur vos demandes d'admission parce que je sais que vous avez la case de circonstances atténuantes, mais tous les autres universités, à l'intérieur de leurs demandes d'admission, ils ont toujours une case à la toute fin pour, effectivement, comme vous avez dit tantôt, envoyer un courriel. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui ne le savent pas. Alors, quand ils font la demande d'admission, ils ont à donner une précision, comme on parlait tantôt du d'examension ou quoi que ce soit. C'est pas nécessairement de faire une explication comme les circonstances atténuantes. Moi, je pense qu'il faut garder la coche circonstances atténuantes, la boîte qui est là. Mais en même temps, je vous propose, là, lors de votre étude par rapport à vos formulaires d'admission, de mettre une case à la toute fin, comme les autres universités, qui peuvent donner une information supplémentaire s'ils ont à fournir quelque chose. Au lieu d'envoyer un email à admission, parce que souvent, ils ne le savent pas qu'ils peuvent faire ça, et en plus, ils n'osent pas faire cette démarche-là.
Excusez, quand je dis courriel, peut-être c'est une erreur. Si un étudiant cachait cette boîte, OK, il y a automatiquement ajouté un code sur son dossier.
Oui.
OK. Et c'est possible pour les étudiants de télécharger dans son dossier.
Oui, Karen, mais c'est parce que je veux dire quelqu'un qui... Moi, j'en ai eu plein qui le font. Moi, je leur dis là de mettre la case circonstances atténuantes. Les étudiants qui sont chez eux, souvent ne le savent pas. Ils essaient de trouver, comme dans les autres universités, dans leur demande d'admission, à la toute fin. Parce que si tu ne l'as pas coché, tu ne peux pas revenir là, pour aller chercher la circonstance atténuante. Alors, ce qui fait qu'ils n'ont aucun espace pour écrire et ils n'ont pas fait la demande par la case. Oui. Moi, je vous propose juste de mettre peut-être à la toute fin, mettre un petit encadré, dire, bon, s'il y a quelque chose à nous envoyer, oubliez pas de nous fournir, nous télécharger des documents. Mais présentement, ils sont dans le vide, là. Moi, je sais, j'ai ramassé un après l'autre après pour dire, ben, fallait que tu coches la case circonstances atténuantes. Et ça, c'est pas, je pense que, ou bien vous le publicisez plus à l'ouverture de la demande d'admission, ou bien vous mettez à la toute fin, comme les autres universités. Parce qu'ils sont habitués à y faire en bloc, vous savez, sur tout médecine, qui en font quatre, et qu'à la toute fin, ils ont toujours l'opportunité d'écrire quelque chose. Alors, c'est ça. C'est pour ça. C'est une suggestion, le fait comme vous voulez, mais moi, je pense que ça faciliterait beaucoup la vie des étudiants.
Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent Kim, notre directrice des admissions, qui voudrait...
Merci beaucoup. C'est une excellente idée, et nous sommes en train d'installer un nouveau système, comme toujours. Nous faisons toujours les améliorations. Présentement, nous sommes en train de le faire pour les études supérieures. Ça va relativement bien, mais éventuellement, nous avons l'idée d'utiliser le même programme avec ce type d'amélioration, parce que vous avez raison que c'est difficile à souvenir. Ah oui, je dois envoyer un courriel. Merci beaucoup. C'est une bonne idée.
Deuxième question, Karen, c'est aussi encore pour les admissions. Sport-études. Nos étudiants de sport-études. Je sais que ça aussi, ils ont à donner des documents, sont sur le site, c'est écrit. Moi, je veux savoir plus par rapport à votre traitement. Est-ce que ils ont une bonification parce qu'ils viennent de sport-études où vous ne tenez pas compte? Est-ce qu'il faut... Moi, la question qu'ils me posent, c'est est-ce que je fournis ça pour rien, là, ce document-là? C'est pas... J'aimerais avoir votre position par rapport aux étudiants de sport-études.
Merci, Karen. Il n'y a pas une bonification pour le programme sport-études. Par contre, nous donnons plus de temps pour compléter. Mais ce n'est pas le cas pour tous les programmes ici. OK. Alors, pour médecine, je ne parle pas pour médecine normalement, mais...
dans le même bateau.
Mais nous sommes familières avec le programme, mais il n'y a pas un bonus automatique.
Parce qu'il pense, hein? Vous savez que c'est une des... Moi, j'insiste pour médecine, effectivement, parce que ça peut aider justement le cheminement d'un étudiant. Mais je vous fais part d'une légende, peut-être, mais les étudiants pensent que parce qu'ils sont en sport-études, ils ont une bonification.
Dentistry, law, I don't know if you guys want to weigh in. If that students have done a sport-études, how would it factor into the admission review?
Because our process, parce que notre processus est global, oui, ça va être pris en compte, quelqu'un qui a, ça va démontrer des bonnes habiletés de gérer son temps et tout ça, puis de discipline, mais c'est pas quantifiable de la façon dont
il n'y a pas une bonification.
OK.
Même chose pour les
OK, merci.
Oui, merci.
I have three questions. The first, Karen, when a student has to email you because they're taking a summer course, should they email you directly or is there another email address they should send it to?
I prefer not, it depends. sometimes we ask on the student's checklist, are you taking a summer course? So they can answer by uploading their answer right away to that file. And sometimes the student will say right on the application form that they're going to take a summer course, so we don't need to ask. So sometimes we kind of look at it and go, are they? And we will put a note on their file. But if they send it to the admissions email address, it will eventually get into their file. And when we read the file, we'll see it there. So it could work different ways.
Okay. My second question, there's been some hint of maybe a new engineering program.
Yes.
Is that coming to light for this admission cycle?
Not for this admission cycle, but coming soon to a theater near you, yes.
Okay. Will they be able to take courses in a biomedical type field in engineering?
I'm not sure yet.
Okay.
I'm not sure yet. We're waiting for engineering to give us more information. Jocelyn? Oh, OK.
Oui. Mm-hmm. La deuxième question, c'est juste que on avait su qu'on commençait à donner peut-être des informations sur un programme en génie biomédical, genre. OK. Puis je demandais juste que si... Oh, pardon?
Il semble bien.
Okay. C'est encore en développement.
Coming soon.
Ouais.
Yeah.
OK. The third question, Charmaine, for you and maybe for dentistry as well. I know that for sport-études, there is a different form that has to be filled out. If a student is not in a sport-études program, can they still fill out that form?
They can still fill it out, and we will still look at it. Sorry. Do you want to answer this question? Or, okay. You can correct me if I'm wrong. We will look at it. It really needs to demonstrate to us the level of intensity and time commitment and structure that we would expect to see in a formal sport-études program. But basically, if we're seeing these same kinds of evidence of 25, 35 hours on the road, tournaments, those kinds of things, we will certainly take that into consideration for the same purposes that we talked about before, to allow that person to be eligible to apply even though they didn't complete their DEC in 2 years. That's the main reason why we look at that document.
Merci. J'avais demandé si un étudiant n'est pas dans un programme de sport-études, comme nous autres, on ne l'a pas chez nous, mais qui quand même répond à la quantité d'heures de compétition, puis qui ne prend pas, mettons, le 6 cours par session, tout ça, mais il n'est pas inscrit dans un programme de sport-études, est-ce qu'il peut quand même compléter le formulaire sur la... en médecine puis en médecine dentaire, puis elle a dit que oui, même s'il n'est pas officiellement inscrit dans le programme de sport-études. C'est ça?
Oui. J'aimerais juste ajouter un petit renseignement. Moi, je suis Vesna Antoine, agente des admissions pour la faculté de médecine. Dans le contexte de leur CV aussi, on attend de voir combien d'heures par semaine les candidats ont participé, par exemple, à de l'implication communautaire, au sport. Fait que dans le contexte de leur CV, le travail aussi. Alors, ils ont l'opportunité d'indiquer le nombre d'heures consacrées à certaines activités et c'est regardé très près. Alors, parfois, ce n'est pas nécessaire de remplir tout un autre formulaire. Ils peuvent vraiment le mentionner dans leur CV aussi.
J'avais vu une autre question. Est-ce que... Was it here? Yeah. Donc, ça, c'est quelqu'un qui nous envoie une question à travers le webinar.
Oui, alors ça vient d'un de nos conseillers qui écoute sur le web. C'est pour notre représentant musique. Elle vous demande, quel est le nom du programme qui permet de faire musique et une autre discipline? Alors, est-ce qu'il y a moyen d'étudier en musique et peut-être autre chose?
C'est, en anglais, ça s'appelle Faculty Program, parce qu'on n'a pas vraiment un nom en français. C'est le programme général de musique, Faculty Program. C'est un programme qui est beaucoup des electives, c'est beaucoup des cours qu'un étudiant peut suivre dans un autre domaine. Par exemple, un étudiant qui suit ce programme peut faire un deuxième majeur dans la faculté d'art. Puis, ils vont compléter leur diplôme, peut faire à la même temps.
Un petit suivi sur la demande d'admission. Quels sont les étudiants choisis la faculté
faculty
de musique
program. Faculty.
Et ensuite faculty,
faculty
program.
Program. Parfait. Oui.
Alors, c'est le nom officiel. Excellent.
Vous me faites penser à une question qui n'est pas seulement pour musique. Lorsque les étudiants prennent des doubles majeurs, je vais juste vérifier si j'ai bien compris, ils font plus que 90 crédits. Puis probablement, ils font 4 ans au lieu de 3 ans. Est-ce que c'est vrai ou?
Oui, ça peut arriver, oui. Mais pour nous, en musique, si un étudiant veut vraiment compléter un double majeur, c'est bien. Ils vont compléter plus que 90 crédits. Mais si l'étudiant ils ont des notes très hautes, il peut continuer avec un double majeur. Mais pour nous, on a un double majeur puis un double diplôme. Souvent, on a des étudiants qui complètent un bac en musique, puis un bac en sciences. Ça, c'est un programme plus allongé, c'est environ 5 ans. Parce que l'étudiant, ils vont compléter deux diplômes différents. Avec la faculté d'art, en général, c'est le bac en musique, puis il ajoute un deuxième majeur avec musique.
Donc, c'est pas un double diplôme.
C'est pas un double diplôme.
Double majeur, c'est pas un double diplôme.
Non, mais c'est un baccalauréat qui concerne plus que.
Oui, oui. Puis un étudiant, si, admettons, un étudiant veut suivre un programme au deuxième cycle, ça se peut qu'ils ont assez de crédits dans cette deuxième majeure.
Pour les autres programmes, je ne sais pas si ta question aussi, c'est à propos des doubles majeures, par exemple dans la faculté des sciences humaines, faculté des sciences, où c'est des possibilités aussi. Dans la faculté des arts, c'est rare que l'étudiant va avoir à dépasser le 90 crédits. Une concentration majeure est généralement de 36 crédits, donc de faire une double majeure, ça se fait très facilement. Pour la faculté de sciences, des fois, on devrait certainement parler avec une conseillère pour planifier le parcours académique parce qu'effectivement, les concentrations majeures peuvent aller jusqu'à 54, 70 crédits et à ce moment-là, ça pourrait être, il pourrait avoir du temps rajouté au diplôme pour pouvoir faire le double majeur. Oui.
Est-ce que c'est écrit sur leur diplôme?
Qu'il y a une double majeure? Non.
Non.
Ah non?
Non.
Ça serait une bonne idée.
C'est certainement à rajouter dans le CV. C'est certainement à indiquer sur le CV.
Sur le relevé de notes.
Oui.
C'est écrit.
Oui.
En fait, ma question concerne exactement ce dont vous parlez. Qu'est-ce qui va marquer sur ça? Qu'est-ce qui va indiquer dans sa... demande d'admission quand il veut faire... J'ai un étudiant qui m'a demandé hier, il veut faire une double majeure, l'une en études allemandes et l'autre en linguistique.
Mm-hmm. Donc, ces deux majeures se retrouvent dans la même faculté, qui est la faculté des sciences humaines. Quand les étudiants font une demande en art, ils rentrent tous en tant que « undeclared ». Donc, ils n'ont pas à dénoter sur la demande d'admission quelle filière, quel majeur qu'ils veulent choisir. Et c'est parce qu'en fin de compte, la sélection de majeur n'aura aucun impact sur l'évaluation de la demande d'admission. So the majors that they're choosing will not impact the admission review for the Faculty of Arts. So in that particular example. Pour un étudiant, par contre, qui songe peut-être à faire la Faculté des sciences, dont vous avez sans doute vu qu'on a des groupes différents, à ce moment-là, oui, l'étudiant doit vraiment choisir le groupe qui contient le ou les majeurs qui les intéressent et doit faire la demande dans ce groupe. Pour les étudiants qui veulent chevaucher deux facultés différentes, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. C'est sûr que nous avons le Bachelor's of Arts and Science qui a été créé spécifiquement pour les étudiants qui veulent faire une majeure en sciences humaines et une majeure en sciences pures. Et en fait, c'est un choix sur la demande d'admission, the Bachelor of Arts and Science. Mais pour tout le reste, vraiment pour la Faculté des arts, éducation, les étudiants n'ont pas à choisir spécifiquement la majeure.
Ça va se préciser à ce moment-là avec au moment du choix de cours?
Au moment du choix de cours.
Ou avec le Academic Counselor?
Oui, au moment du choix de cours, donc généralement pendant l'été. Alors, une fois que l'étudiant a choisi d'accepter l'offre d'admission à McGill, ils vont s'inscrire pour leur cours pendant l'été. On a, en fait, un événement pour les étudiants nouvellement admis du Cégep. C'est juste pour eux. Ça s'appelle CSI, qu'ils peuvent venir se présenter pour démystifier un peu le processus du sélection de cours. On va leur faire un étape par étape comment physiquement aller dans Minerva et s'inscrire pour leur cours. Et on a également des conseillères sur place de chacune des facultés pour les aider dans leur réflexion, leur choix de cours. Parce qu'effectivement, ils vont avoir à faire le choix de majeur et mineur et s'inscrire pour les cours avant de se pointer sur le campus pour débuter les cours au mois de septembre.
C'est ma dernière question, je vous le promets ensuite. Est-ce qu'il va pouvoir faire les deux en même temps? Souvent, les étudiants me disent, je vais pouvoir faire de l'allemand et en même temps du linguistique ou une après l'autre.
Oui. En fait, de là vient la force de nos programmes, mais aussi un aspect plus compliqué. Parce que oui, les étudiants qui vont choisir de faire une double majeure ou une majeure avec une mineure, à chaque session, vont faire une combinaison de cours pour remplir les critères de chacun de leurs choix. Alors, si j'ai choisi une majeure en allemand et une majeure en linguistique, je vais avoir une liste de cours que je vais devoir compléter pour avoir mon diplôme. Et à chaque session, je vais pouvoir en choisir de chacune de ces listes. Et je vais faire un beau mélange. Alors, oui, ça donne une flexibilité incroyable pour l'étudiant qui veut vraiment créer son propre programme, mais ça demande aussi de la recherche, de la préparation pour s'assurer que je sais c'est quoi les cours que je dois prendre, je les ai tout pris avant de terminer mes 3 ans. Ça répond à la question?
Merci, c'est excellent. Merci.
Parfait. On va en prendre... Oh, Sylvana.
Clarification pour les doubles majeurs. Si un des programmes, c'est un programme professionnel, c'est mieux, il faut faire la demande au programme professionnel en premier. Que la désignation du diplôme, ça fait partie du ordre des génies ou le ordre des diététiques. Puis que la deuxième majeure soit celui-là qui est pas professionnel. Si c'est fait à l'inverse, ça va avoir un problème.
Alors, exemple,
est obligé de faire un
changement.
On peut
pas rentrer dans la faculté des sciences humaines et ensuite faire une majeure en diététique.
Exactement.
On rentre dans la faculté où se retrouve la majeure professionnelle.
Oui, exactement. Merci.
Yes.
I had a student who was interested in doing a joint honors program in math and computer science. Mm-hmm. And he agonized over what he should do. I told him just apply into the math and earth sciences and computer sciences group and everything will sort itself out. But when I asked actually an advisor in that area, in the math area, he said, yes, you could apply directly. So I don't know, would that be a situation where they would send you an email and tell you, or does it really matter?
So on the application, the Faculty of Science does allow students to select their major. If they scroll through, they'll notice there's an undeclared option, and there's also the option to immediately choose the major that they want. Really, students won't be penalized in the choices that they're making. I don't know, Kim, if you were going to kind of add on, but they need to choose the group where their major is found, and afterwards, if they change their mind, it's not going to be a problem.
I think that Lindsay's absolutely right. Ce n'est pas nécessaire de sélectionner ni vous ne serez pas forcé à rester dans cette choix. L'idée de laisser ça comme une option, c'est juste pour donner un peu de l'idée de nombre d'étudiants qui peut être inscrit. Je crois que mais peut-être c'est quelque chose qui vaut la peine de le voir, de considérer quel est le perspective que ça donne.
En fait, juste pour clarifier aussi, comme je disais auparavant, dans la Faculté des arts, les étudiants n'ont pas le choix de choisir une majeure sur la demande d'admission. Ils n'ont que l'option « undeclared ». Tandis que dans la Faculté des sciences, on choisit un groupe. Et ensuite, on voit une liste des majeurs dans ce groupe. Premièrement, c'est aidant parce que l'étudiant peut s'assurer qu'ils ont choisi le bon groupe, qui contient la majeure qu'ils veulent. Mais il y a également l'option « undeclared » pour l'étudiant qui n'est pas certain. Mais si je choisis le groupe « sciences, biologie, biomédicale » et par la suite, je choisis la majeure « biologie », je ne suis pas pris dans cette majeure. Ce choix-là n'aura aucun impact sur la révision du dossier. Et si je décide de changer par la suite, c'est très, très faisable et en fait très simple.
Also, I wanted to add one thing. A lot of students want to choose honors this and honors that. Not to worry about that at the point of admissions. That's something you choose your department if you want to, if it's available as a choice. But for honors designations, yes or no, you will deal directly with your department and your faculty for that choice. It's not admissions.
Ça s'adresse à la faculté de médecine. C'est un étudiant qui m'a posé cette question-là, puis je trouvais ça intéressant de vous la poser ce matin. On sait que tous les étudiants qui sont très forts font du tutorat. Maintenant, dans les écoles, ils font du tutorat, ils font de l'entraide par les pairs. Est-ce que maintenant, c'est mieux de faire, parce que dans leur CV, dans leurs trois points saillants, est-ce qu'ils sont mieux de parler d'autre chose que parce que maintenant, dans tous les collèges, les étudiants forts font du tutorat? Est-ce qu'ils sont mieux d'axer leur qualité sur autre chose que le tutorat? Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui me disent on fait tous du tutorat. Est-ce que ça va paraître ou est-ce que c'est avantageux ou pas de mettre ça dans des points saillants?
c'est très difficile de répondre à cette question, surtout pour ce bassin de candidats, parce que ça peut être le tutorat, ça peut être le St. John's Ambulance, ça peut être... c'est un bassin assez homogène dans les expériences. Premièrement, le document est un peu différent cette année. Il n'y a pas les trois faits saillants. Il faut que les candidats répondent à trois questions sur le contenu du CV et leur réflexion sur ces expériences. Et qu'est-ce qui manque là-dedans aussi. Alors ça, c'est une perspective intéressante pour nous aussi. Sur le tutorat, je vous conseille juste de dire que si le candidat est capable de démontrer une perspicacité, okay. Is that the word I'm looking for? Insight?
Ouais.
Dans leurs expériences, une maturité, qu'est-ce qu'ils ont retiré de cette expérience, et surtout ça, et pas juste le fait qu'ils ont été dans une activité. Pour nous, c'est ça qui va distinguer un candidat d'un autre, s'ils ont tous les mêmes expériences. Une question de qu'est-ce qu'ils ont retiré, comment est-ce qu'ils sont capables de de s'exprimer. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que does it hang together? Est-ce que ça fait du bon sens dans l'évaluation globale de cette personne? Est-ce qu'il y a des nuances? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous démontre que cette personne a pas juste fait l'activité pour le faire et pour l'ajouter à son CV? Parce que ça paraît aussi. Est-ce que ça répond à votre question?
Oui, ça va. L'autre question, c'est pour le bac en éducation. Justement, vous savez, l'immersion, le programme d'immersion, quand ils font leur demande d'admission, ils font la demande d'admission à la faculté d'éducation, puis ils mettent kinder. Mais est-ce que ils ont l'opportunité, comment, parce que l'étudiante m'a posé la question, quand est-ce que je choisis l'immersion, parce qu'elle n'est pas dans la demande d'admission? La concentration, immersion, le BEPI, qu'on appelle. Là.
When do students choose immersion for education? C'est une excellente question.
Oui, je l'ai cherché beaucoup.
On va faire un suivi.
OK, merci.
On va faire un suivi sur ça. Donc, on va terminer la période des questions. On a un... CEGEP Student Information Session.
CEGEP
Students Information System.
Thank you. Et c'est généralement la première ou la deuxième semaine de juin.
De juin.
Et c'est généralement une semaine avant la date de l'inscription.
Mm-hmm. I'd just like to get a big thank you for all of our panelists today. Thank you so much for spending your morning with us today. Thank you all again for those of you who came out today. Merci à ceux qui ont connecté avec nous via le web. On a eu quelques questions à propos des documents qui sont disponibles ici aujourd'hui pour les conseillères. Et oui, on va s'assurer de vous envoyer les documents par courriel dans les journées qui suivent. Jocelyne?
Lisa Maioni d'avoir travaillé oui, sur la partie Mélissa. Distance. Merci beaucoup, Mélissa.
Parce que la deuxième portion de notre activité aujourd'hui se déroulera à l'extérieur, on n'aura pas la chance de vous remercier tout ensemble dans l'auditoire. Donc, je voulais vraiment vous remercier beaucoup d'être venu aujourd'hui. Thank you so much for sharing your time with us today. We value the work that you do tremendously in helping students. We hope that we are helping to support you in that mission. On a beaucoup de respect pour le travail que vous faisiez et on est très reconnaissant que vous avez passé votre temps avec nous aujourd'hui. Notre but ultime, c'est vraiment de vous supporter dans votre mission d'aider les étudiants. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Vous avez tous nos coordonnées. Si vous ne l'avez pas ramassé, il y a une feuille sur la table à l'entrée avec tous nos courriels où vous pouvez nous rejoindre si vous avez des questions. We're going to break now. We're going to have a petit pause bagel. And afterwards, we're going to do a speed dating round. So we have five. We have à l'extérieur. Non, pas dehors. À l'extérieur de cette pièce, il y aura cinq tables. Donc, pendant la pause, je vous demanderai en fait de vous mettre en groupe d'à peu près entre 3 et 5, pour pouvoir faire le tour des tables en groupe. Vous allez avoir 15 minutes à chaque table. Donc, les représentants vont s'introduire, parler pendant quelques minutes, et ensuite, vous aurez la chance de poser vos questions. On aura également une table avec des représentants du bureau d'admission, donc moi-même, et Jocelyne, si vous avez des questions de suivi. Et finalement, je voulais juste pointer à un tout nouvel outil, a brand new tool that we have just introduced to the applying website. Donc, le site web est mcgill.ca/applying. Et c'est la deuxième petite flèche ici, où on voulait simplement vous informer que c'est disponible. I can switch it to French. On va le switcher en français. Voilà. Donc, l'outil de la demande d'admission, où les étudiants peuvent maintenant choisir leur niveau d'éducation. Donc, pour un étudiant du cégep, le choix est déjà là, école secondaire ou cégep. Ils peuvent ensuite choisir le lieu. Pour nous, c'est important. Évidemment, on a beaucoup d'étudiants qui proviennent de l'extérieur du Québec. Encore une fois, pour nos étudiants d'ici, le choix est déjà fait pour eux. Et le Cégep aussi, ils ont, dans certains cas, pour nos représentants qui seraient ici, des de Marie de France ou de Stanislas pour identifier pour le bac français. Finalement, le programme qu'ils désirent faire une demande ou ils désiraient déposer une demande d'admission, on va choisir Génie, par exemple. Et ensuite, on a collectionné les dates limites d'admission, les cours préalables, le processus d'admission. Donc, vraiment, les documents qui sont nécessaires. Oui. Pour médecine dentaire, droit et musique, ce que vous allez recevoir, si l'étudiant fait ce choix-là, on va vous donner le site web pour vous diriger à la bonne place, parce que vraiment, les étudiants devraient être sur le site web de chacune des facultés. Alors, c'est la seule précision à apporter, mais j'espère que vous allez l'utiliser, qu'il vous sera utile, qu'il sera utile à vos étudiants, et si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, nous les envoyer.
Pour des programmes de pédagogie de l'immersion française, il faut contacter le département directement pour demander d'être admis dans ce majeur-là, parce qu'il faut passer un test de placement en français. Donc, il faut faire la demande en Kindergarten and Elementary Education, puis au moment d'avoir une décision d'admission, il faut contacter le département directement. Oui, exactement.
Oui.
Oui. C'est ça, exactement, oui.
Excellent. Merci beaucoup. On se revoit à l'extérieur de cette pièce pour le speed dating.